on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Une partie de ces émissions est captée sur De Vif, au café Mon Oncle, 16 rue d'Alger, à Nantes, à 18h30.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Ce matin, en me réveillant, j'ai eu une inspiration. Voilà, parce que chaque semaine, je vous propose des contenus autour de la chanson dans cette émission Trafic d'air. Et cette semaine, je n'en avais pas, tout au moins, j'en avais pas de tout frais, de tout prêt. La semaine prochaine, on aura un cercle critique. Mais pour cette semaine, il fallait que je me décide pour une rediffusion. Et ça a été lumineux pour moi. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me suis dit, cette interview d'Émilie Loiseau que j'ai faite à la fin de l'année 2016 dans les loges de la salle Paul Fort, juste avant un concert qu'elle donnait pour la Bouche d'air, a pas dû prendre beaucoup de rides. Je me suis empressé de vérifier, et effectivement, après vérification, elle a des choses à dire qu'elle pourrait encore dire aujourd'hui. On pourrait y ajouter une chanson qui n'y était pas à l'époque et qui s'intitule « Viens avec nous, mon vieux pays ». Mais parce qu'elle s'est plus préoccupée ces derniers temps de l'avenir de la planète et de l'écologie. Mais déjà, dans cette interview, elle parle de sa place de citoyenne, du monde même. Elle parle aussi de la famille, elle parle des gens avec lesquels elle travaille et avec lesquels elle collabore. Elle parle aussi des femmes et de la place qu'elles ont dans notre société et dans ses préoccupations. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Émilie Loiseau, dont on parle moins en ce moment, mais qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans une jolie émission qui a été proposée par l'Opéra de Paris, c'est amusant, où elle parlait avec Sophie Ledière, qui s'occupe de mettre en place les projets d'Émilie Loiseau. Alors je dédie cette rediffusion à Sophie Ledière. Salut l'ami. Aujourd'hui, je vous convie à un moment assez exceptionnel, une rencontre dans sa loge avec Émilie Loiseau à quelques heures avant le très beau concert qu'elle a donné jeudi dernier à la Bouche d'air. Il s'agissait de la tournée qu'elle mène en ce moment sur la base en particulier des chansons de la comédie musicale Mona. Elle vous en parlera dans l'interview et vous comprendrez que une chose est le récital, une autre est la comédie musicale. Elle a d'ailleurs, au cours de son concert, après avoir terminé son concert, repris la scène pendant 7 autres chansons qui étaient plus un retour sur son répertoire habituel. On retrouvait « Jalouse » et « Je ne sais pas choisir » et bien d'autres. Vous allez maintenant découvrir une personne qui a des préoccupations et qui parle à cœur ouvert, je crois, de ce qui sous-tend l'écriture de ses chansons et son travail d'artiste. Bonne découverte. Aujourd'hui, c'est Émilie Loiseau qui nous reçoit dans une loge de la salle Paul Fort pour une rencontre. Alors, Émilie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
J'ai réécouté hier soir le disque Mona, sur lequel nous nous sommes déjà penchés parce que l'émission a un cercle critique. Et au printemps dernier, on a écouté Mona et on en a parlé. Et comme ça n'arrive pas à tous les coups, le disque a fait l'unanimité des trois personnes qui se sont retrouvées pour dire que c'était un très beau disque. Et qu'il nous plaisait beaucoup. Et moi, en l'écoutant hier, je me suis dit, non seulement c'est un très beau disque, mais il est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien masterisé. On entend un très beau son de A à Z. Mais est-ce que c'est une nouveauté? Puisque dans les précédents, il y avait aussi un très joli travail de production, de réalisation, non? C'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur particulièrement.
Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, ça a été fait différemment cette fois-ci. Et c'est un son qui, s'il part, s'il conserve ce que je suis au niveau sonore et ce que j'ai forgé au niveau sonore depuis trois albums, il va aussi dans une autre direction, puisqu'on a travaillé avec Renaud Létang et que j'ai eu envie sur ce disque, on a retravaillé avec lui, Je l'ai choisi évidemment pour tout le talent qu'il a, mais aussi parce qu'il a ce son très particulier qui correspondait à ce que je voulais sur ce projet. Je voulais à la fois conserver ce son très organique, très naturel, très acoustique, parfois électrique, mais qui reste très, très organique de mon travail, mais aller le fêler, le tordre, le rendre plus chimique par endroits, de manière sous-jacente, de manière interne, pour parler de pour ce projet-là, pour Mona, pour ce dont il parle, cela me semblait juste. Donc, c'est vrai que la réalisation a été dans ce sens-là, et pour la première fois, j'ai pris un réalisateur qui n'est pas des moindres.
Oui, son nom est connu et ses réalisations multiples ont déjà largement attesté de la qualité de son travail. En plus, vous étiez au studio Ferber,
voilà,
qui est quand même un endroit un peu magique. Pour la petite histoire, j'ai passé toute mon enfance à quelques centaines de mètres du studio Ferber. J'habitais boulevard Mortier.
C'est
un joli quartier avec la campagne à Paris, là, juste à côté. J'ai connu la construction de ce studio quand j'étais jeune. et j'ai vu passer l'autobus des Procolas La Roue, mais tout un tas de gens qui sont allés enregistrer là. Donc c'était dans les années 60, ça, et c'est très impressionnant, évidemment, d'imaginer aller dans ce studio-là, dans le grand studio, j'imagine que vous étiez.
Non, on n'était pas dans le grand parce que Renaud Létang a choisi pour domicile, évidemment, parfois il enregistre dans la grande, mais il aime beaucoup son studio, le B en bas, avec sa salle et le piano droit, et il avait très envie de faire ça là. Et moi, je l'ai suivi surtout. C'était très agréable de mettre entre. On avait fait tout un travail d'arrangement, parce que les orchestrations, quand même, il a réalisé l'album, mais en fait, toutes les orchestrations ont été faites par Olivier Kunduno, mon violoncelliste.
Tout
le son et la patte de la guitare, qui a un son Tchaba Palotai, mon musicien, a un son vraiment bien à lui. Donc on a fait un travail tous les trois avant. Et ensuite on est allé voir Renaud avec tout ça, et lui a dit d'accord, très bien, on travaille comme ça, on fait une espèce de fusion entre votre travail et là où moi je pourrais l'emmener avec son batteur fétiche là, Vincent Tégère, qui est un musicien extraordinaire, et du coup ça a vraiment été un mélange de à la fois ce que je suis avec mes musiciens et de lui, et c'était chouette de pouvoir à un moment donné remettre les clés à quelqu'un après avoir fait un gros boulot, et donc de savoir que j'allais dans la direction que je voulais, de dire bon ben voilà, maintenant je fais trois pas en arrière, je réfléchis en tant que chanteuse et je laisse clé en main à quelqu'un. Et c'était vraiment assez chouette de faire ça comme ça. Très, très neuf pour moi.
C'est important de pouvoir à un moment donné ne plus être que la chanteuse.
Je crois que c'est... Oui, en tout cas, je voulais le vivre. Et je crois qu'effectivement, c'est assez important. C'est assez important parce que ça offre le fait de pouvoir se concentrer sur sur autre chose, sur la musique et pas que sur l'organisation et pas tout prendre sur ses épaules. Et puis aussi, moi je réalisais mes disques avec mes musiciens entourés parce que c'est vrai que j'ai une manière de faire particulière, que je veux pas, je veux aller au bout de quelque chose et que j'ai du mal à envisager d'un seul coup confier à quelqu'un le fait de savoir où le disque va aller. Je pense que en travaillant comme ça, c'est aussi important de savoir, en s'étant bien investi au départ, c'est aussi important de savoir reconnaître que il y a différents métiers, et parfois juste laisser quelqu'un driver, ça permet d'apprendre aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis ça permet d'avoir une manière extrêmement habile et professionnelle et fine et neuve. C'est comme que de travailler avec des gens qui, là, dans la pièce de théâtre de Mona, j'ai travaillé avec des musiciens, danseurs, vidéastes. On apprend en fait aussi en travaillant avec d'autres. Et quand on voit quelqu'un comme Renaud travailler, on apprend énormément, quoi.
Cette fois. elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois.
C'était Au Sombre, Au Sombre qui fait partie de Mona. Alors Mona, on s'est posé beaucoup de questions. On en parlait tout de suite, des vidéastes, des danseurs, des musiciens sur une pièce de théâtre. On ne l'a pas vu, nous à Nantes, on n'a pas eu la chance de découvrir ce qui s'est passé au 104 l'année dernière. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous raconter Mona et peut-être aussi nous donner quelques clés parce que c'est pas évident.
Oui. Ensuite, ce disque, il s'écoute complètement indépendamment de la pièce. On est pop, c'est un disque de pop, de chansons pop qui s'écoute sans qu'il y ait besoin de connaître, d'avoir des clés. Mais, alors déjà, j'espère que ça va venir par chez vous, puisqu'on va le tourner à partir de septembre prochain. Alors, je sais que ça va jouer au Mans. Ah. Alors, est-ce que ça va aller jusque Nantes, du coup? Finalement, on fait quelques kilomètres de plus. En tous les cas, on va retourner...
Il y a des plateaux qui peuvent accueillir ça, j'imagine.
Donc, voilà, ça, ce sera l'automne prochain, la saison 17-18. Cet album, donc... j'ai eu envie d'écrire ce disque autrement, d'envisager la musique de ce disque comme j'écrirais la BO d'un film, donc servir une narration, servir une histoire, prendre l'espace ou au contraire laisser la place, écrire un instrumental, enfin vraiment penser ça comme une BO, ce qui m'a permis d'avoir un cadre très précis puisqu'il y avait une histoire donnée, une narration, et donc d'avoir à la fois des sources d'inspiration par le verbe, par les mots, par les dialogues, et en même temps une nécessité parfois d'avoir là une musique ou là une chanson. Et j'ai beaucoup aimé travailler dans ce cadre-là, ce qui change un peu l'espèce de cadre énorme qui serait bon, bah, de quoi je vais parler sur un disque. Là, d'un seul coup, c'est voilà, c'est ça, c'est ce petit carré-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'était toute autre démarche. Cette histoire, je l'avais écrite 2 ans auparavant. Je m'avais fait une nouvelle que j'avais un peu rangée dans un tiroir, ne sachant pas trop ce que j'allais en faire. Et puis, m'est venue l'idée de l'adapter pour le théâtre, d'en faire une pièce de théâtre musicale. Et tout pendant que je faisais cette adaptation, j'écrivais la musique comme un canevas, quoi. Voilà. Et il s'agit... le point de départ, c'est cette histoire d'une jeune femme qui raconte la naissance de son enfant, qui naît vieux. On lui annonce que son enfant a plus de 70 ans à la naissance. Tout le monde a l'air de trouver ça absolument normal.
C'est pas la vie à l'envers de Benjamin Button.
Alors... c'est très différent en ça qu'il ne rajeunit pas.
Ça fait une vraie différence.
Voilà. Donc cet enfant, tout le monde a l'air de trouver ça normal. Tout se passe comme si cette maternité était absolument normale et que cette maman s'inquiétait franchement pour pas grand chose. Et à partir de ce postulat, tout devient absurde. La vie de cet enfant est assez rapidement projetée dans d'institution en institution où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est comme une noyade intérieure, un naufrage intérieur. Cet enfant ne trouve pas sa place et semble atteint d'une détresse impossible à soigner. Et donc va d'institution psychiatrique en institution psychiatrique pour finir en maison de retraite et puis pour finir par symboliquement clore ce naufrage par une noyade intérieure puisqu'elle boit trop d'eau et meurt de cela. Il s'agit du même personnage.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Parallèlement à cela, se raconte une autre histoire dont on ne sait si elle est vraiment liée généalogiquement, c'est pas dit dans la pièce, mais qui est une espèce de métaphore de la première. C'est un marin de 25 ans qui s'engage dans la Navy, part sur un bateau, ce bateau est coulé par les Allemands au large de la Crète, donc son bateau fait naufrage. Et avant ce naufrage, il écrit des lettres à sa femme qui attend leur premier enfant. Des lettres d'amour, des lettres d'espoir, des lettres qui pensent que l'humanisme vaincra, qu'il rentrera à la maison. Voilà. Et ces deux naufrages, l'un réel et l'autre symbolique ou intérieur ou psychologique, voilà, se racontent en parallèle. Ces deux histoires sont deux histoires intimes puisque j'ai fait un feu de joie un peu absurde et bizarre, une fable, un conte grinçant et drôle et joyeux, parce qu'en fait ça a l'air très sombre comme ça l'histoire de Mona, mais en fait c'est assez caustique et c'est écrit sous le style de la BD. Il y a tout un tas de médecins qui arrivent avec des diagnostics impossibles, voilà, c'est assez absurde et surréaliste. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, c'était ma manière à moi de témoigner de ce parcours que j'ai eu auprès de ma maman qui était atteinte d'un déséquilibre psychique profond qui a fini par prendre toute la place en elle et qui a fait qu'elle en est morte en janvier dernier. Et c'était une manière pour moi de parler de ça, de rendre hommage à cette espèce de foisonnement de vie qu'elle était. À dire aussi, exprimer la colère, mais à dire aussi que tout ça fait partie de la vie, à vrai dire, et que c'est très compliqué aujourd'hui d'accompagner des gens qui sont atteints de ce genre de maladie, parce qu'en fait, le seul endroit qui semble fait pour les accepter sont les institutions psychiatriques, les cliniques privées ou les hôpitaux psychiatriques. Et qu'aucun de ces lieux ne sont vraiment des lieux de vie, sont des lieux de passage ou des lieux de soins. Et que ces gens, pour la plupart, ont un grand besoin d'être dans la vie, d'être dans un quotidien qui est le leur, et d'être accompagnés là-dedans. Et la vie dans la cité, la vie dans notre société, n'est pas du tout à même aujourd'hui de permettre cela, ou en tous les cas, à moins que la famille ne renonce à sa vie propre et ne fasse que d'accompagner. Mais sinon, vraiment rien n'est fait. On a sans arrêt l'impression de déranger, en fait. Et c'était une manière, du coup, non seulement de parler de tout ça, mais de ne pas non plus en parler, en faisant semblant que ça parlait d'autre chose et que c'était juste un conte, mais d'en parler sans tabou et de dénoncer un tabou, justement, et de dire de quoi il s'agit, et du coup de livrer une part de mon intimité, mais voilà, pour ouvrir ce sujet-là, qui me semble être un sujet grave, en fait. Voilà, et... En fait, pour moi, parce que l'histoire de ce marin, c'est l'histoire de mon grand-père.
Oui, ça, c'est assez explicite, je crois.
Et
ça a été beaucoup dit déjà.
Oui, voilà, mais du coup, pendant longtemps, j'ai toujours vu un lien un peu symbolique entre le fait qu'il ait connu un tel traumatisme de guerre et ce naufrage, et que la vie de ma maman, qui était sur le point de naître à ce moment-là, soit à mon sens une forme de naufrage sur une vie entière, j'y ai toujours vu voilà comme un symbole assez fort, mais que je ne regardais que comme voilà une symbolique poétique. Mais plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dit qu'en fait la vraie réponse à cela, c'était peut-être que quand on vit un traumatisme aussi fort qu'une guerre, ça a des incidences, ça porte une empreinte sur vous, qui la vivez, ou qui vivez ce naufrage, ou ce bombardement, ou cet exil. Mais ça aussi, je pense, par la force des choses, cette empreinte a des résonances sur les générations suivantes. Et cette chose, voilà, je l'ai dénouée comme ça, je l'ai regardé à la loupe en écrivant cette pièce, comme je regarderais à la loupe un événement familial intime. Et quand je l'écrivais, que je le regardais à la loupe, je levais la tête et je voyais ce qu'on traversait en ce moment, tous. Et je me disais, c'est fou comme en fait on ne mesure pas ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens en ce moment qui vivent l'enfer, l'enfer absolu, et on est en train de leur imposer des deuxièmes et des troisièmes, voire des quatrièmes traumatismes à chaque frontière. Et quel adulte en devenir, des enfants qui voient leurs frères et sœurs échouer sur les plages, des enfants qui sauront un jour qu'ils étaient dans un camp en Grèce et qu'ils avaient pas assez, qu'ils étaient rationnés en lait et que du coup ils auront certainement des séquelles physiques ou cérébraux de leur manque en apport nutritionnel essentiel à cet âge. Quels adultes en colère, quelles bombes humaines en devenir sont-ils, quoi ? C'est qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on se réserve à nous, mais qu'est-ce qu'on réserve aux générations futures ? Qu'est-ce qu'on réserve à l'état du monde dans 10, 20, 30 ans ? Cette empreinte, elle est irréversible et elle est d'une grande profondeur. Cette question d'un seul coup m'a été s'est posée. Alors je dis pas que ce disque raconte ça, mais en fait si. En fait, c'était pas un disque politique au départ, mais il a été complètement poreux à ce qu'on traversait. Et en fait, pour moi, au fond, ça en est un, oui.
Cette lettre a traversé tant d'océans. J'espère qu'elle te trouvera le cœur content. La Méditerranée est si belle à présent, malgré ce cruel et sombre printemps. Les lettres de vous me réchauffent tant, crois-moi, mais elles mettent des semaines pour arriver jusque-là. Alors quand j'entends les nouvelles de Londres, les bombes, je m'inquiète parfois pendant des mois. Cela me prendrait toute une lettre pour te conter les jeux du soleil sur la crête avant l'été. Je me tiens prêt, mais je n'en peux plus de t'écrire. mère me tient debout, est certain de revenir. Quel étrange tourbillon nous avons choisi pour donner la vie, s'aimer comme ça. Je me souviens du bord de mer, de toi, en septembre, quand j'étais par chance tombée sur toi. Souviens-toi de moi, mon amour, dans ce complet blanc, ces habits de marin qui te plaisaient tant. Je vais tenir ma tête haute pour finir cette guerre et rentrer accueillir notre enfant. Cela me prendrait toute une lettre pour te conter les jeux du soleil sur la crête avant l'été. Je me tiens prêt, mais je n'en peux plus de t'écrire. La mer me tient debout.
Donc c'était Sombre Printemps. Sombre Printemps qui est, où il y a encore le mot sombre dans le titre.
Et pourtant c'est un disque lumineux.
Ouais, c'est un disque lumineux, mais on l'a constaté, on l'a entendu. Mais moi, dans cette histoire, j'ai envie de, qu'on revienne à quelqu'un qui a l'air d'être très présent, que j'ai entendu avec vous à Rennes, il y a de cela fort longtemps, dans un co-plateau avec Franck Monnet, où vous aviez joué les chansons du premier album connu, puisque j'ai constaté qu'il y avait un autre album autoproduit qui existait auparavant, mais dont je ne sais rien, et dont je ne sais pas s'il ne faut pas l'oublier d'ailleurs, il arrive que ce soit le cas. Et vous avez toujours travaillé ensemble, j'ai l'impression que je ne le vois jamais en dehors du casting. Et vous avez même fait un disque en duo.
Voilà.
Donc parlons un peu d'Olivier Kounounou.
Oui, mais c'est mon tout premier musicien avec Cyril Avec. Là, sur ce projet de Mona, Cyril ne joue pas parce qu'on était dans une autre recherche de rythmique et parfois plus numérique.
Un batteur.
Voilà, et puis on a pris un batteur qui amène aussi des choses plus. Plus électro par endroit, des touches plus électroniques par endroit. Du coup, on a changé. Parfois, les projets nous amènent à axer la composition de l'orchestre un peu différemment.
Mais il n'y a qu'un seul violoncelliste.
En tous les cas, si j'ai un violoncelliste, c'est lui. Voilà. S'il doit ne pas y en avoir, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est une collaboration qui est au-delà aussi de l'instrument, qui est aussi liée à ce qu'il aide, effectivement, le son qu'il a avec son instrument. On a vraiment évolué et grandi ensemble depuis 2006. C'est un arrangeur, c'est extraordinaire, c'est un musicien extraordinaire, et puis c'est un pote, bien sûr, maintenant. Et voilà, alors la vie ensuite est longue, j'imagine que... Enfin, voilà, lui, je sais qu'il nourrit des projets, et j'espère qu'il ira au bout de projets personnels, en solo, et j'espère vraiment qu'il ira au bout, parce que je pense que ce sera extraordinaire. Mais je crois que notre collaboration n'aura jamais de fin parce qu'on est profondément amis et humainement et musicalement. Oui. Et c'est il a fait toutes les orchestrations donc de Mona, particulièrement sur ce projet-là, il a fait toutes les orchestrations de A à Z. Ensuite, Renaud Létang a mal axé ça à sa manière, l'a mixé à sa manière, mais tout le travail d'arrangeur est de lui.
Et très très bien servi par la réalisation et par, je le répète, le mastering. Et je dis le mastering parce que je connais l'importance du mastering,
ouais,
et que j'ai écouté ce disque sur différents supports et que à chaque fois il donnait son meilleur, et je me suis dit la personne qui a travaillé là-dessus a fait un boulot formidable.
Mais c'est pour ça que c'est pas mal parfois de travailler avec des gens qui
pas avec
dont c'est le vrai métier.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Je reviens à ce violoncelliste, à ses amis, à ces gens qui font des parcours. On a évoqué votre mère auparavant, et moi, il y a un mot que j'avais envie d'utiliser, c'est le mot famille. Parce que j'ai vraiment le sentiment, on connaît aussi l'existence de votre sœur et l'importance de son travail. On a vu les documentaires qu'elle a pu faire en Tchétchénie, enfin, on a vu la façon dont elle aussi est concernée par le monde. Et je me suis dit, c'est quand même un mot qui doit importer beaucoup. En plus, j'ai cru comprendre que vous étiez mère. Donc, famille, qu'est-ce que ça vous dit, famille, famille? Avec une acception certainement étendue, parce que j'ai profité de cette connivence avec Olivier Kunduno pour arriver sur l'idée de famille, parce que dans le disque, zut, le mot m'échappe, mais où viennent Jeanne Chéral, les gens de Moriarty,
Pays Sauvage,
enfin dans Pays Sauvage, et dans le suivant où Herman
Dieu
est encore là, il y a Camille, il était question que les femmes à barbe ça puisse être aussi tout un tas d'autres gens que Jeanne Chéral, Olivier Ruiz et la troisième, j'ai oublié,
Nina Morato.
Voilà, qu'est-ce que c'est que cette famille, cette grande famille, pour une grande solitaire qui
vit je suis une grande solitaire qui vit plus trop en Ardèche en ce moment, mais qui y va dès qu'elle peut. Je suis un mélange. Je suis à la fois. J'ai à la fois été élevée avec cette notion très forte de la tribu, de la cellule familiale
élargie.
J'avais une grand-mère qui était une comédienne et. Incroyable, mais qui était surtout un humain incroyable et qui, au-delà d'être une comédienne très connue en Angleterre, pour moi, c'était surtout ma grand-mère et qui provoquait autour d'elle une espèce de sens du collectif, de la. Oui, elle générait autour d'elle une fête, quoi. Donc,
est-ce qu'on peut dire du partage ?
Du partage, et j'ai aujourd'hui des cousins finalement généalogiquement très éloignés. Des enfants de des enfants d'enfants de cousins germains de ma mère, par exemple, mais qui sont très proches, voilà, parce qu'on a, il y avait quelque chose de très fort comme ça autour d'elle. Donc j'ai mon oncle est parti au Canada monter une troupe de théâtre ambulante qui a sillonné le continent américain et qui a fait des choses extraordinaires avec ses roulottes et ses chevaux. Cette notion de troupe, c'est quelque chose qui m'a fascinée depuis gamine, où il me racontait ses histoires quand il revenait à Noël en Angleterre. Donc tout ça, je pense, a provoqué à moi cette fascination effectivement pour le clan, pour l'amitié dans l'art, pour le fait de construire un spectacle ensemble ou de construire quelque chose ensemble. Mais en même temps, et peut-être et de manière antinomique, et peut-être justement en réaction à ça, aux familles qui parfois, c'est magnifique les clans, mais parfois ça vous met un peu la pression, un besoin de m'en extraire absolument. Donc je suis un mélange d'une grande solitaire et de quelqu'un qui a besoin aussi de faire les choses, qui aime faire les choses en collectif. Donc c'est vrai que... partager avec, que ce soit Olivier Kunduno ou Chapa Palotai, mon guitariste avec qui je bosse depuis plusieurs albums maintenant, et avec des amis du théâtre, toute l'écriture de cette pièce, tout ce projet qui était effectivement très ambitieux.
Qui a travaillé sur la mise en scène ?
Julianne Roth, qui a également fait la mise en scène de la scénographie du concert, et avec qui je travaille également pour le projet du Louride, qui est comédienne et réalisatrice et metteur en scène. Voilà, donc c'est et puis je crois que en fait plus je grandis, plus je vieillis, plus je crois que la famille c'est aussi plus ça va, plus c'est les gens qu'on choisit aussi et l'amour qu'on a envie de leur donner et ce que vous disiez tout à l'heure hors micro d'ailleurs, donc ça va être compliqué d'en parler, mais je crois qu'effectivement ceux avec qui on a envie de construire un monde meilleur, quoi, et je crois que Ça, c'est une famille très importante. Voilà. Qu'elle alors, soit la famille même... du sang ou de la... C'est, je crois que les valeurs, ont, à un moment donné, prennent le pas sur... Évidemment que la famille du sang reste quelque chose qui est indiscutable parce qu'on vient de là et ils nous ont transmis quelque chose. Mais ceux avec qui on décide de construire un monde meilleur ont une valeur très forte. Et je crois que le tri se fait au bout d'un moment. Il n'y en a pas beaucoup.
Dans la famille même, il y a une sister qui est Manon, qui elle aussi travaille avec beaucoup d'ardeur
à
fabriquer un monde meilleur et qui a pris beaucoup de risques, j'imagine, pour faire ce qu'elle a fait. Et c'est à elle qu'est consacrée cette chanson, Sister ?
Oh oui, bien sûr, j'en ai qu'une de sœur.
Voilà, donc c'est d'elle qu'il s'agit. Et c'est peut-être cette chanson-là qu'on pourrait écouter maintenant.
Si moi, vous voulez,
bien.
Pas de problème.
Elle est légère et en même temps grave, hein, puisque c'est une histoire de séparation, si je me souviens bien.
Oui, oui.
Et puis peut-être ça nous amènera à parler d'autre chose après. Donc on écoute Sister de Pays Sauvage. C'était Sister. Et moi, j'ai envie de revenir à autre chose. On a parlé tout à l'heure des femmes à barbe. Il y a un collectif féministe qui s'appelle La Barbe. Cette bande de femmes à barbe, c'est aussi les Françaises. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Jeanne Chéral, parce qu'on se connaît depuis déjà pas mal de temps, du temps où elle était nantaise et où j'essayais de l'aider à avancer dans la vie. Elle n'a pas eu beaucoup besoin de moi, d'ailleurs. Et pas du tout, même. Et en fait, cette communauté de femmes-là, qui sont dans la chanson, qui sont une relève, qui sont des femmes qui ont entre 35 et 40 ans, enfin, on ne va pas les citer, mais tout le monde sait à qui on pense, les Françaises, les Françoises plutôt, c'est pas les Françaises, les Françoises. Quel rôle ça peut jouer et quelle importance ça a à votre avis pour la cause des femmes, tout simplement? Et est-ce que vous avez l'impression d'œuvrer aussi de ce point de vue-là? J'avais envie de parler de ça.
Je ne sais pas. Non, je crois que ce serait excessif de dire. J'essaie d'œuvrer pour des choses. Je trouve que c'est un petit peu prétentieux, mais en tous les cas de garder mes yeux ouverts et d'ouvrir ma bouche et de m'investir sur des choses. Sur la question des femmes, je ne pense pas avoir œuvré. Évidemment. Que je me sens très concernée par cela. Je crois que d'ailleurs Jeanne a beaucoup plus parlé de ça que moi. Je me sens évidemment complètement concernée, investie par tout cela, et aujourd'hui plus que jamais, puisqu'on peut quand même constater que quand des périodes de crise qui nous emmènent progressivement à nous replier sur nous-mêmes vers des idéologies fascisantes, que la droite se durcit, et que le monde se polarise vers la droite et donc vers une droite qui se durcit, eh bien, d'un seul coup, des phrases sont prononcées sur, voilà, sur la femme, sur l'IVG, sur les droits de la femme. Et Simone de Beauvoir avait raison, quoi, hein, en période de crise. Nous serons les premières à en ressentir les conséquences. Et cette phrase-là, elle résonne en ce moment. Quand on voit M. Fillon s'exprimer sur l'IVG, qui pour lui n'est pas un... Il n'estime pas que c'est un droit absolu. Il dit qu'il ne remettra pas ça en question, mais ce n'est pas un droit fondamental pour lui. C'est très grave. C'est très très grave de dire ça, quand même. Et après toutes ces luttes, c'est vrai c'est difficile d'imaginer que ça puisse arriver comme ça. Et on voit qu'aux États-Unis, bon, ben on verra où va M. Trump, mais...
Oui, donc, aux États-Unis, des médecins qui régulièrement sont assassinés parce que voilà. Des interruptions de grossesse.
Donc, bon, ça, c'est sûr que je crois que la question de la femme, comme d'autres questions fondamentales, vont être des luttes, et il va falloir s'apprêter à être en résistance.
Mais quelque part, en mettant en scène cette femme à barbe qu'on voit dans les photos alors... Pays Sauvages, et ces femmes à barbe, il y a une revendication.
Il y avait une revendication pour
le droit à la différence, pour le droit à tout un tas de modalités. Exactement. Qui sont pas acceptables normalement. Voilà.
Une femme comme pour un homme, c'est-à-dire que pour moi, c'était
le transgenre qui a gagné l'Eurovision il y a 2 ans. J'ai oublié son nom là. Quelque part, donnait une illustration forte aussi, justement, de acceptez-nous dans notre particularité. Et c'est aussi ce que dit Mona quelque part.
Oui, c'est sûr que la femme à barbe déjà touchée à ce qu'on ne veut pas voir, à ce qui dit les choses qu'on ne veut pas entendre, à cette part de l'humain qui ne veut pas se plier à une norme et qui entre en résistance ou qui aussi perd pied dans les cités. Ça parlait aussi beaucoup de ça, dans la cité, à l'intérieur d'une cité, d'une grande ville comme Paris ou comme Nantes ou ailleurs. On croise il y a une grande violence, une violence humaine au sens où une grande dureté. Et les gens qui perdent pied sont très facilement et très rapidement oubliés ou mis de côté. Et on croise donc des gens qui, à un moment donné, sont dans une espèce de perte complètement d'eux-mêmes et que personne n'ose regarder. Donc la femme à barbe parlait aussi de ça, elle parlait de l'exclusion, quoi. Et de ces gens, effectivement, dont la différence fait peur.
Mmh. 3 euros au fond de ta poche. Si je les vole, c'est parce que t'es moche. Après-demain, j'irai en enfer. Oh, croix de bois, grand frère. Je l'aime pas ton sourire de cloche. Et je t'éclate très bien ta caboche. Après-demain, je vais en enfer. Oh, croix de bois, grand frère. Je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe, ce que tu veux de moi dans ton beau métro. Il fait le coq pour nommer sa botte, mais elle est pas plus courageux qu'une fiotte. Quand il me voit, il regarde pas vert. Oh, croix de bois, quoi de faire. Il pavane le joli petit coq, mais il regarde pas toujours ses bottes. Il berluque les jolies derrière. Oh, croix de bois, quoi de faire. C'est moi, la femme à barbe. Viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale? Si t'en as assez, t'as qu'à nettoyer. Faire la place pour tes belles godasses. Si je te dérange pas, bah, il faut que tu ranges. Cache-moi là et tu me verras.
Sont pas beaux tes jolis petits mioches. Grassouillés, striqués comme des cloches. Je t'aurais mieux fait d'avoir un hamster. À croix de bois, quoi faire. Tu les tapes tes jolis petits mioches. Parce qu'hier ils t'ont fait les poches. C'est sur eux que tu te passes les nerfs. À croix de bois, quoi faire.
Je suis là. Celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe. Est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro? C'est moi, la femme à barbe. Viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe. Est-ce que tu veux de moi dans ta capitale? Je suis la femme à barbe. Celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe. Est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro? C'est moi, la femme à barbe. Viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe. Est-ce que tu veux de moi dans ta capitale?
Bla, 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 bla. Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Peut-être est-ce qu'on pourrait parler de revenir sur Sister qu'on a écouté tout à l'heure et parler plus généralement les deux langues dans lesquelles vous écrivez. Puisqu'en fait, oui. Par français, mère anglaise, si j'ai bien compris, deux langues familières. À quel moment est-ce qu'on choisit d'écrire en anglais ou en français? Pourquoi on le fait? Il y a des débats dans la chanson que vous connaissez sûrement. Pourquoi ils chantent toujours en anglais alors que la langue française est si belle? On nous rétorque que l'anglais sonne mieux et ainsi de suite. Vous qui êtes bilingue et qui du coup utilisez les deux langues, qu'est-ce qui vous fait faire la différence et comment est-ce que ça se passe quand on utilise une langue ou l'autre?
C'est de manière très irrationnelle et animale. J'ai été élevée dans les deux langues. Je rêve dans les deux langues. Je parle dans les deux langues. Je commence une phrase dans une langue et je la termine dans l'autre parfois. Je fais ça aussi avec mes enfants. Donc c'est quelque chose. Je suis constituée comme ça. Donc moi, la question de savoir s'il faut écrire en anglais ou en français, si je devrais ou je devrais pas, je me la pose pas. Et quand on me la pose ou quand des producteurs peuvent se dire « mais il y a plus d'anglais, il y a moins d'anglais », je sais pas, j'ai pas compté en fait. Et je vais pas commencer à compter en fait. Si je commence à rentrer là-dedans, c'est fini. Mmh. Donc je tiens à écrire en français, je vis en France, j'ai été élevée en France. Je veux parler aux gens. J'adore cette langue, j'aime écrire avec cette langue. Donc il est hors de question que j'écrive un disque tout en anglais. Enfin non. Ça arrivera peut-être, mais je veux dire, j'ai pas envie de faire une carrière que en anglais, d'oublier le français. En plus, je pense que c'est absurde parce que je vis dans ce pays, donc c'est absurde de ne pas parler aux gens parce que pour moi, le texte est très 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 important et ce qu'on raconte, ce qu'on a besoin de dire, et particulièrement en ce moment, plus on va aller, plus je crois que ça va être important. Et voilà, est vital. Maintenant. L'anglais est une langue qui m'a deuxième moitié, dont j'ai un grand besoin, qui a une richesse aussi poétique. Dans Mona, ça s'explique très très fort parce que ce qui a axé ça, c'est aussi la thématique, cette double histoire. Donc la plupart des chansons qui parlent du marin de la Navy, de mon grand-père, sont en anglais, certaines en français, une. Et pour Mona, essentiellement en français, mais parfois en anglais, parfois dans les deux langues. J'aime faire entrechoquer ces langues parce que c'est ce qui se passe en moi. Donc finalement, je livre un peu une part de mon cerveau en faisant ça. Et puis je trouve que essayer de les faire sonner de manière, non pas à l'unisson, mais de les faire en tous les cas se rencontrer, s'entrechoquer et sonner ensemble, c'est un vrai défi que je me lance, parce que c'est quand même deux langues qui sonnent très différemment. Et j'aime les faire se rejoindre. Et puis sinon, de manière plus générale, quand je ne suis pas guidée par une histoire comme je l'ai été pour Mona, c'est plus une question... j'ai l'impression que c'est une musique qui naturellement va pencher vers une langue ou vers une autre.
Tout à fait. Il y a
d'ailleurs... Et parfois, j'ai envie de prendre à contre-pied pour voir ce qui se passe. Et puis parfois, j'ai juste envie de suivre l'instinct. Voilà.
Il y a d'ailleurs des compositeurs, enfin je pense à François Bernard Marche, pour compositeur contemporain assez ancien maintenant, qui a écrit dans des langues, plus pour les sonorités de ces langues, justement pour leur musique, pour leur musicalité spécifique, elles ont toutes une musique différente. Il lui a écrit dans beaucoup de langues différentes pour justement l'intérêt musical, sonore de chacune de ces langues. Ce qui est amusant aussi, c'est, ce sont ces chansons, et je pense à Mona, Mona, See the World Upside Down, où là, on passe du français à l'anglais, au refrain en anglais, au couplet en français, et où finalement, cette langue, d'abord l'anglais, qui est une langue qui est devenue familière à beaucoup de gens sur la planète, ce qui me vient à l'esprit au moment où on en parle, et me reliant à ce que nous nous sommes dit auparavant, c'est aussi que quand on se revendique citoyen du monde, qu'on passe d'une langue à l'autre, c'est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et évidemment, il y aurait l'espéranto, mais il n'a jamais vraiment pris autant qu'on aurait pu le souhaiter. Donc il y a des langues. Ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il y a juste encore un sujet que j'avais envie d'aborder. C'est le sujet de la nature. On a parlé un tout petit peu de l'Ardèche. J'ai vu quelque part que votre maison donnait sur le Mont Ventoux, qui est un endroit que je connais bien parce que je l'ai fréquenté dans mon enfance. Mmh. C'était là qu'on allait passer Noël tous les ans. Mmh. Et je vois bien cette nature et cette campagne. Dans Pays Sauvage, on a une nature qui est là. Enfin, j'ai l'impression que le rapport aux éléments, peut-être même au tellurisme, enfin, est quelque chose qui compte aussi, et qui affleure un peu partout dans l'écriture.
Beaucoup,
et
beaucoup,
à l'eau, ouais. En ce qui concerne Mona, qui en est un élément majeur.
Oui, ouais, beaucoup. Je suis très inspirée par la nature, j'en ai un grand besoin, d'où le fait que j'ai posé mes valises en Ardèche. Et je crois que... l'un de nos plus grands soucis est, comme le dit Pierre Rabhi, que nous sommes de plus en plus élevés hors sol, et je crois que il est indispensable qu'on remette les deux pieds dans la terre pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on est en train de prendre comme direction, et pour réaliser la nécessité absolue de se reconnecter avec quelque chose de viable, quoi, sur le long terme, pour nous et pour les générations suivantes. Donc je crois que la nature, pour ça, est indiscutablement celle qui nous guide et celle qui nous apprend et celle qui nous fait réfléchir, quoi.
Pierre Rabhi habite aussi en Ardèche, finalement. Ouais. Là. On a bouclé une boucle avec l'Ardèche et cette pensée lumineuse. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des sujets sur lesquels j'avais envie de conversion. On passera peut-être une dernière plage. Alors, à un moment, je m'étais dit, mais... il faudrait aussi peut-être qu'on parle d'autres musiciens. Est-ce que si on terminait par la musique de quelqu'un d'autre, par qui on terminerait ? Entre les études de piano avec Bach et Schumann, entre les références à Tom Waits que j'ai vues dans des biographies ou à d'autres. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ? On a parlé de Lou Reed. Enfin, je ne sais pas.
Je crois que... Je crois qu'aujourd'hui, j'aurais pu vous dire Lou Reed, puisqu'effectivement, je fais ce spectacle... autour de Lou Reed en ce moment, qu'on continue de tourner en ce moment. On va la semaine prochaine dans une dizaine de jours aller en Suisse pour jouer ce spectacle. J'espère qu'on viendra le jouer par chez vous bientôt. Mais je pense que je vais plutôt vous parler de Leonard Cohen parce que voilà, il va nous manquer.
Je choisirai une chanson à moins que vous vouliez en choisir une.
Nous chantons à la fin de chaque concert. Alors ça dépend, parfois on le fait pas, mais on verra ce soir, je n'en sais rien. La chanson le chant du partisan. D'ailleurs, on en a fait une reprise sur le bonus de l'édition Fnac avec Djaba Palotai. On a fait une version du chant du partisan en guitare voix. Donc, soit vous la trouvez, soit vous mettez Leonard Cohen qui la chante, soit une chanson de votre choix.
Retrouver
sa voix magnifique. voilà, ouais. Si vous avez envie de mettre une autre chanson. Tout me va.
Merci de cet accueil, Émilie, et de cette conversation.
Merci, à bientôt.
they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
C'est ainsi que se terminait cette rencontre avec Émilie Loiseau, dont j'espère que vous l'avez savourée. La semaine prochaine, comme je le disais au début de l'émission, nous nous retrouvons pour un cercle critique avec trois albums au programme, des récents, celui de Jeanne Rochette, celui d'Armande Ferry-Wilsec et celui de Louis-Jean Cormier. Allez, bon week-end et à samedi prochain. Au moment où je termine le montage de cette émission, je viens de découvrir qu'Émilie Loiseau, aujourd'hui même, ce jeudi 22 avril 2021, a produit un nouveau clip à partir de la chanson Working Class Hero de John Lennon. Un clip que je vous recommande de découvrir, il vient d'arriver sur les réseaux sociaux et peut-être que c'est ça que j'avais pressenti en me réveillant ce matin. Voilà, je vous souhaite à nouveau un bon week-end.
Ma langue est fait tout ça. Pom, pom.